Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour un.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mais pourquoi ai-je prévu ce sujet aujourd'hui? Quelle erreur funeste! Les vacances scolaires ont démarré hier. Mes enfants risquent donc d'écouter la radio ce matin. On sait jamais, sur un malentendu. Or, je passe mon temps à leur répéter qu'il ne sert à rien de hurler nom d'une pipe en bois. Parlez-vous gentiment, s'il vous plaît. Arrête de crier sur ton frère. Et toi, demande-lui pardon. Bon, ce matin, je vais penser contre moi-même, parce que nous allons nous pencher sur les bienfaits des engueulades. Oui, osons dire qu'elles en ont, parfois. Une bonne dispute peut être saine, salutaire, salvatrice. Fuir le conflit n'est pas toujours une bonne idée. Se défouler n'est pas vain. Bon, évidemment, il s'agit de ne pas confondre conflit et dispute. Encore moins dispute et bagarre. Tout cela mérite de la nuance et quelques anecdotes. Et tant pis si des oreilles innocentes nous écoutent en vacances, c'est peut-être un acte manqué. C'est parti, l'art de bien s'engueuler.
Dorothée Barba, sur France Inter.
Et nous avons réuni trois invités autour de ce sujet glissant. Une journaliste que les disputes intriguent, une psychologue qui les ausculte dans son cabinet et un metteur en scène de théâtre qui en a fait l'un des moteurs de son travail. Bonjour Clara Georges.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes journaliste au Monde, responsable de l'Époque. C'est un supplément consacré au sujet de société qui paraît dans le journal du dimanche lundi. Et vous êtes aux commandes d'une rubrique intitulée « Comment je me suis disputée ». Le titre est un hommage au film d'Arnaud Desplechin. Des anonymes racontent une dispute qui les a marqués. Ça donne des histoires très variées, souvent familiales, très souvent captivantes. Et à chaque fois, on a un seul point de vue. Est-ce que ce n'est pas terriblement frustrant, ce renoncement à l'objectivité ?
Eh ben non, pas du tout. Alors d'abord, je pense que ça fait un petit moment que j'ai renoncé à la sacro-sainte objectivité journalistique, à laquelle je ne crois plus tellement. C'est-à-dire qu'on veille à retranscrire les propos de nos interlocuteurs au plus juste, mais une réalité est toujours subjective. Et par ailleurs, je trouve que c'est assez passionnant justement d'avoir un point de vue, parce que tout simplement, je plonge dans l'histoire de gens. Donc, quand ces gens se mettent à me raconter leurs disputes, ça a d'ailleurs été une des grandes surprises pour moi. En fait, ils ne racontent pas seulement une dispute, un moment où on s'engueule, où on casse des assiettes, où on jette des verres par terre. Ils racontent une vie entière et tout ce qui s'articule avant et après cette dispute. Donc, c'est profondément intime. Et en cela, je trouve que justement, ça ne peut pas être autre chose que un récit d'une personne, une vision d'une dispute.
Ça s'appelle « Comment je me suis disputée », c'est-à-dire dans Le Monde, et on va en donner évidemment quelques exemples au fil de l'émission. Face à vous, dans ce studio, Camille Rochet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Vous travaillez en particulier avec des couples. Vous avez publié un livre intitulé « L'amour commence après 3 ans » chez Inter Éditions. Quelque chose me dit que vous n'encouragez pas forcément vos patients à s'engueuler, encore moins dans votre cabinet.
Alors, c'est ce que vous disiez en introduction. En fait, je n'encourage évidemment pas à la dispute. En revanche, j'encourage au conflit. Et il y a trop de personnes qui associent le conflit à la dispute. La dispute que moi, j'associe au règlement de compte. Et là, le problème, c'est que ça va générer des blessures qui peuvent rester, même si on dit « mais c'était sous la colère, je le pensais pas ». En fait, ça reste quand même. En revanche, le conflit, il ne faut pas en avoir peur. Le conflit, c'est la confrontation d'idées contraires qui va créer un petit heurt qui n'est pas évident à vivre, mais qui va arriver à un compromis qui est salvateur pour le couple. Et il faut absolument oser le conflit.
Et mon troisième invité est en direct avec nous depuis Le Havre. Bonjour Jean-Christophe Meurice.
Bonjour.
Bienvenue, Les Chiens de Navarre. Vous êtes le fondateur et le metteur en scène de cette troupe de théâtre, souvent présentée comme sulfureuse ou insolente. C'est un théâtre hilarant, surtout, et qui se nourrit des pulsions humaines. Alors, j'ai pensé à vous sur ce sujet, Jean-Christophe Meurice, parce que je reste marquée par une scène de dispute familiale dantesque dans votre dernier spectacle. Tout le monde ne peut pas être orphelin. Est-ce que c'est l'un de vos grands plaisirs de metteur en scène, les engueulades ?
Bah, disons que, comme disait UNESCO, pas de théâtre s'il n'y a pas de conflit.
Mmh.
Donc, si on montre une scène où les personnages sont heureux, comment dire, on s'ennuie, quoi. Il y a, ça vaut pas grand chose, quoi. Donc, oui, la crise, le conflit, la dispute, c'est le nerf de la guerre, pour les représentations.
Et ça va loin, ça va très très loin dans vos spectacles. Tout le monde ne peut pas être orphelin, c'est le nom donc de ce dernier spectacle des Chiens de Navarre. Il vient de quitter le théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Et il sera en tournée bientôt dans toute la France, notamment Châlons en Champagne, Annecy ou encore Rennes. Allez, j'attends vos engueulades, chers auditeurs et auditrices. Racontez-nous par courriel à la page de l'émission, L'été comme jamais, ou alors via l'application France Inter sur votre téléphone. Vous pouvez même nous laisser une note vocale. Et si vous préférez le bon vieux téléphone pour intervenir en direct, vous connaissez le numéro 01 45 24 7000. D'abord de la douceur. Voici Paul McCartney sur Inter.
When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun. To comes. Must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store when winter comes? When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun. When winter comes, I must find the time to plant some trees in the meadow where the river flows. Time to come, they'll make good shade for some poor soul. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun. When winter comes, when winter comes.
L'été comme jamais. Dorothée Barba.
Arrêtez! Arrêtez! Mais vous êtes complètement malade! Vous êtes complètement taré! Bande de babacoules dégénérés! Vous nous abandonnez! Vous avez été incapables de nous éduquer! Et maintenant vous nous abandonnez! Comme Jospin nous a abandonnés! Sans même dire un mot, sans même se retourner! Putain, mais même les animaux feraient pas ça à leurs petits! Même les sangliers feraient pas ça à leurs enfants! T'imagines un sanglier dire à ses petits marcassins: on se casse avec maman au Portugal!
Tout le monde ne peut pas être orphelin, extrait du spectacle des Chiens de Navarre. C'est un repas de famille qui dégénère complètement après que les parents ont annoncé la vente de la maison et le départ au Portugal. L'art de bien s'engueuler, c'est notre sujet ce matin avec Jean-Christophe Meurice, metteur en scène de cette troupe de théâtre, les Chiens de Navarre, avec Camille Rochet, psychologue, et avec Clara Georges, journaliste au journal Le Monde, qui signe la rubrique « Comment je me suis disputée ». Comment appréhendez-vous, Jean-Christophe Meurice, les scènes de dispute comme metteur en scène? Comment les préparez-vous sur scène?
C'est un travail avec alors je suis désolé, j'ai un énorme écho. Ah. Donc je vais finir par me disputer avec moi-même.
Ah, c'est bien ça. Vous vous entendez en écho, c'est pas très confortable. On va essayer de gérer ça. Je vais peut-être donner la parole aux autres en attendant. Vous nous parlerez quand vous ne vous entendrez plus vous-même, peut-être. Clara Georges, je rappelle que vous pilotez cette rubrique dans le journal Le Monde, Comment je me suis disputée. D'où est venue d'abord l'idée de cette série de témoignages?
En fait, c'est parti d'une lecture en plein premier confinement, je pense au mois d'avril 2020. J'ai lu un papier qui est paru dans Le Monde, qui racontait des ruptures du confinement, les premières ruptures du confinement. Il y en a eu d'autres probablement après. Et ce papier commençait par trois récits de disputes qui avaient quelque chose de presque drôles, alors même qu'elles avaient engendré quelque chose de terrible, enfin une rupture. Donc il y en avait une qui disait une femme qui reprochait à son mari de prendre sa douche trop longtemps, un mari qui reprochait à sa femme de laisser les lumières allumées, et j'ai eu cette curiosité qui m'est venue de connaître le reste de l'histoire. J'avais vraiment envie de savoir comment ces gens, comment d'autres se disputaient, qu'est-ce qui déclenchait ça. Et derrière, bah, c'est, je pense, un appétit chez moi pour tout ce qui est de l'ordre de l'intime, une envie de savoir ce qu'engendre une dispute et aussi, évidemment, ses conséquences dans le temps.
On ne se sépare pas vraiment pour des douches qui durent trop longtemps.
Visiblement, il y a d'autres ressorts.
Camille Rochette, on a tous un rapport différent à la dispute, à la querelle, à l'engueulade. Est-ce que ça laisse des traces différentes selon les individus?
Oui, évidemment, même les couples qui au départ vont vous dire mais nous, on a toujours été habitués à nous dire les choses franchement et c'est ça. En fait, il y a un problème dans la communication. Parfois, il y a des couples qui communiquent trop. Et donc, quand il y en a un des deux qui a envie de tout dire, qui sort le truc dès que ça arrive, en fait, malheureusement, l'autre n'est pas forcément à même de le recevoir au bon moment, de le prendre tel que c'est. Et quand on parlait de la douche tout à l'heure, en fait, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg qui fait que toujours, le problème, c'est que la dispute partir complètement en dispute sur la douche, alors qu'en fait, le problème est souvent beaucoup plus profond.
Il faut une bonne dose de mauvaise foi pour une dispute réussie.
Alors en fait, c'est-à-dire que le problème, c'est que oui, la dispute réussit. Vraiment, la dispute, c'est finalement, c'est moi-même qui m'écoute, quoi, qui sort tout ce que j'ai envie de dire. Mais c'est pour ça que j'invite toujours au conflit. On va approfondir, on va prendre de la distance, on va laisser, et ça c'est la base, l'émotion un peu redescendre, pour vraiment s'intéresser et comprendre l'histoire de l'un et l'histoire de l'autre. Et c'est en ça où Clara disait c'est hyper intéressant de s'intéresser à une personne. Et moi, en consultation de couple, quand j'ai les deux conjoints, je m'intéresse, je passe une séance entière sur l'un, puis une séance entière sur l'autre, en présence de l'autre à chaque fois. Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir enfin comprendre ce qui sous-tend et ce qui est dans le volcan.
Quoi. On a bien compris que la psychologue que vous êtes n'invite pas ses patients à se hurler dessus.
Ah bah c'est
n'est pas
impossible.
Sain, et je ne vous le ferai pas dire dans cette émission. Clara Georges, quelque chose qui me marque dans toute cette série d'articles, comment je me suis disputée, c'est que les gens se souviennent souvent des années après de minuscules détails. La couleur d'une robe, le temps qu'il faisait, c'est bien la preuve que c'est extrêmement marquant dans une vie, une dispute.
Il y a presque quelque chose de l'ordre de l'acmé, je trouve, dans à chaque fois dans ce que les gens me racontent. C'est vraiment une sorte d'escalade jusqu'à la dispute. Et du coup, alors ce qui est assez paradoxal, c'est que très souvent, des années après, les gens se souviennent effectivement de certains détails, de lieux, de moments.
Ce qui est signe d'un trauma en général. Il y a eu un mini-trauma qui fait ça.
Voilà. Voilà. Et en revanche, il n'est pas rare qu'ils aient oublié les termes de la dispute. Ouais. C'est-à-dire que assez souvent, les gens ne se souviennent pas des mots qu'ils se sont dit, des mots qu'ils ont eux-mêmes prononcés au moment où la dispute était à son plus fort.
Je pense à l'une des personnes qui témoignent dans vos colonnes qui s'appelle Julie, sans doute le prénom a été modifié.
Oui, probablement.
Elle raconte une engueulade avec une prof. Elle a fait pleurer cette prof et ça l'a beaucoup marquée. Elle se souvient de la couleur de la robe de l'enseignante, mais pas de ce qu'elle lui a dit précisément. Elle ne se souvient pas des mots qui ont fait pleurer cette femme.
En revanche, elle se souvient de manière extrêmement précise des émotions qui l'ont envahie à ce moment-là. C'est pour elle un moment absolument fondateur dans sa vie. Cette dispute est loin d'être uniquement d'avoir eu des répercussions négatives, puisqu'en fait c'était une jeune femme qui était extrêmement attachée à la figure tutélaire des enseignants, qui avait vraiment fait une sorte de cristallisation sur cette prof qu'elle adorait et qui a été déçue à un moment donné. Et moi, je trouve, elle dit cette chose extraordinaire à propos de cette dispute. Au moment où sa professeure se met à pleurer, elle dit « J'ai pris conscience du pouvoir de mes mots et j'en ai eu peur. »
Alors, je vais tenter de redonner la parole à Jean-Christophe Meurice qui est avec nous en direct depuis Le Havre, les studios de France Bleu. Vous êtes là, Jean-Christophe ?
Je suis là.
Est-ce que vous vous entendez toujours en écho ?
Oui, mais je vais m'y faire. Je vais essayer d'être.
Vous allez tenter de nous parler tout de même. C'est une histoire de pulsions, évidemment, de pulsions humaines, les disputes. Est-ce que c'est ça votre matériau en tant que metteur en scène de théâtre ?
Je pense que pour beaucoup de metteurs en scène, puisque c'est l'endroit de la pulsion. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est
soit tragique, soit comique, à montrer la pulsion sur une scène ou dans des situations par rapport au masque social. Mmh. Et par exemple, quand deux acteurs s'engueulent, eh ben, c'est l'endroit où on va pouvoir dire des choses, c'est l'endroit de la comédie, c'est l'endroit des rapports de force. Mmh. Enfin, tout ça est intéressant pour créer une catharsis, un exorcisme chez le spectateur.
Alors, quand on ne s'engueule pas dans vos spectacles, on échange des banalités. Vous vous moquez avec jubilation de ces conversations sur le trajet emprunté pour venir au repas de famille. T'es passé par où? J'ai pris la rocade. Ah ben non, t'aurais dû prendre l'avenue Gambetta. Voilà, finalement, quand ils se hurlent dessus, quand ils en viennent aux mains, vos personnages, ils se disent vraiment les choses. Il y a plus de sincérité, il y a plus de sincérité dans une engueulade que dans une discussion sur la rocade.
Alors, je suis pas si sûr.
Non, bah dites-moi.
Évidemment, les conversations ordinaires, familiales, ça peut être un peu le dixième que l'on voit de l'iceberg. Mmh. Et les engueulades, c'est les neuf dixièmes. Mais c'est assez subjectif ce qui peut être vrai ou pas. En tout cas, oui, quand ça se dispute, ça éclaire des choses. Ça... Mais en tout cas, moi, ça doit me faire rire aussi, parce que je pense par exemple au misanthrope de Molière. Bon, bah, il est ridicule à s'énerver, à vouloir la vérité partout. C'est quand même un moteur, l'engueulade, pour ridiculiser aussi les personnages, parce qu'on sait très bien que la colère est un signe souvent aussi d'impuissance et de fragilité, qui peut être, en tout cas chez dans les Chiens de Navarre, un moteur comique.
Et d'ailleurs, les disputes dans la vraie vie vous font-elles parfois rire, Jean-Christophe Meurice?
En ce qui me concerne, moi, même quand je les vois.
Quand vous y assistez, peut-être, oui.
Il faudrait.
C'est ça qui est extraordinaire avec la représentation, enfin, de le spectacle vivant. C'est que tout ce que les disputes, la violence qu'on peut voir dans la vie, ça nous glace souvent. Enfin, ça. Sur un plateau, bah, ça prend une autre dimension.
C'est cadré.
Et ça tire vers l'absurde aussi.
Alors, chez les Chiens de Navarre, oui.
Résolument. Un témoignage d'auditrice nous parvient sur le site de France Inter. « Chez mes parents, écrit Louise, on n'avait jamais droit au conflit à part entre frères et sœurs. Mon adolescence a été une grande époque de colère contenue et très frustrante. Lorsque je suis partie et me suis mise en couple, je me suis découverte une capacité d'explosion et je me mettais dans des états de colère que je ne me connaissais pas, dit-elle. En en discutant avec mon frère, il m'a avoué vivre exactement la même chose. Et nous avons conclu que ça faisait un bien fou de pouvoir laisser sortir la colère. » Camille Rochet, vous comprenez cette auditrice?
Alors, oui, et c'est souvent ce qui se passe dans les couples, c'est qu'on vient essayer de réparer ce qu'on n'a pas pu vivre ou mal vécu ou qui a été blessé avant, dans l'enfance, dans l'adolescence, dans nos expériences de vie précédentes. Et là, c'est exactement ce qui se passe, c'est que je viens déverser tout ce que je n'ai pas pu déverser avant. Le problème, c'est que souvent, on a en face un conjoint qui ne comprend pas d'où vient cette colère-là qui explose, parce que souvent, et ça c'est ce que je vais travailler en séance, cette colère n'est pas adressée à la bonne personne. Ce que je n'ai pas pu adresser à la bonne personne, qui là pouvait être ses parents par exemple, ou d'autres situations d'injustice qu'elle pouvait vivre, en fait là elle va l'adresser à son conjoint, et son conjoint vit à son tour de l'injustice parce qu'il considère que ce niveau de colère ne lui est pas dû. Donc il y a ça, c'est la grosse difficulté.
Donc on a des reproches à faire à ses parents et on les adresse à son conjoint.
Et ben exactement, parce que ça n'a pas pu être dit auparavant. Et donc en général, on va essayer de voir comment on arrive à travailler cette colère pour qu'elle soit attribuée à la bonne personne. Alors que ce soit en face à face ou que ce soit par écrit ou bon voilà, on a plein d'autres techniques, mais pour justement libérer la scène conjugale qui n'est pas le lieu de réparation de mes conflits non résolus auparavant.
Je me disais en lisant comment je me suis disputée, les différents témoignages que vous publiez dans les colonnes du Monde, Clara Georges, que souvent les gens qui témoignent ont énormément de recul sur eux-mêmes. Peut-être tous et toutes ont-ils consulté des psys pour avoir une telle capacité d'analyse sur leurs propres disputes?
Certains d'entre eux, en tout cas, m'ont dit être allés voir des psys, mais je ne suis pas certaine que ce soit le cas de tous. Je pense que peut-être ce qui donne cette impression-là, c'est que les gens qui s'adressent à nous, donc par le biais principalement d'une adresse mail...
Voilà, hein, c'est un appel à témoins sur le site du Monde qui donne lieu à ces témoignages spontanés.
C'est ça, exactement. Donc les gens qui s'adressent à nous ont une démarche à laquelle ils ont parfois réfléchi assez longuement. Certains me disent qu'ils ont hésité pendant plusieurs semaines avant de le faire. Ils ont eu besoin et envie de mettre des mots sur cette dispute. Plusieurs m'ont dit d'ailleurs que pour eux, ce témoignage avait une fonction cathartique.
Un peu comme le théâtre des Chars de Navarre, donc.
Peut-être, alors en moins drôle, hein, souvent, mais oui. Et certains d'entre eux, par ailleurs, je pense, ont besoin de raconter cette dispute et de la voir ensuite à l'écrit, pour qu'elle prenne corps, qu'elle ait un sens presque entier. Et aussi, parfois, certains me l'ont admis, dans l'espoir d'être lu par les autres protagonistes de la dispute.
Voilà, c'est une forme de récit national à l'échelle intime. Hein. Il s'agit d'écrire l'histoire officielle.
Oui, c'est classique à notre époque, je pense.
On ne peut pas s'empêcher, évidemment, à chaque fois de se demander est-ce que le frère, la sœur, le père va lire cet article. Je pense notamment à cet homme qui est brouillé avec son père depuis des années, cet homme de 45 ans, je crois, qui a décidé qu'il ne parlerait plus à son père. Évidemment, le père a-t-il lu ? C'est toujours la question qu'on...
Moi, je ne le sais pas.
Et vous renoncez à vous poser cette question ?
Oui, c'est-à-dire que le récit des disputes, encore une fois, est tellement fort en lui-même que je pense que, en tout cas, moi, en tant que journaliste, ça me suffit. Et j'espère que eux, d'une certaine manière, ce qui me rassure, c'est de savoir que les protagonistes, les gens qui me racontent leurs disputes, ils trouvent quelque chose aussi. C'est-à-dire, il y a vraiment une forme d'échange.
Il y a une forme d'échange. On va prendre un auditeur qui est en ligne avec nous, qui a appelé le standard de France Inter. Bonjour Nathan.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez pour raconter une engueulade, j'imagine.
Ouais, voilà. Quand j'ai entendu le thème de l'émission, ça m'a rappelé un moment assez particulier. En fait, donc je m'appelle Nathan Mamery, je suis chanteur et comédien. L'été dernier, j'ai co-organisé une tournée à vélo qui est partie de la Dordogne jusque dans l'Hérault. Et donc voilà, on faisait des concerts tous les soirs avec les remorques, les instruments, tout ça. Et en fait, dans une descente, on était derrière la tribu et avec ma compagne dans une grande pente avec le vent, la puissance voilà du sport, du vélo, tout l'air qui nous arrive dans le visage, tout ça, bien concentré pour pas tomber avec le vélo, la remorque. En fait, on a commencé un conflit, une difficulté de couple assez intensive. Mais le fait
à vélo.
Ouais, okay. À vélo. Avec voilà, le vélo, la remorque derrière, les instruments et tout ça, donc il y avait vraiment quelque chose de puissant. Et le fait de devoir se concentrer pour pas tomber, d'être sur une route de descendre à fond et tout ça et en même temps d'être en conflit, en arrivant en bas, je lui ai dit waouh, c'est je trouve pas que c'est une des plus belles prises de tête qu'on ait eues. C'est une plus belle prise de tête qu'on ait eue parce que le fait de cette intensité sportive, on va dire, du vent, de l'air et puis de toute cette aventure, c'est comme si on allait vraiment à l'essentiel et on se limitait de rentrer dans les reproches, dans des reproches un peu qui tournent en rond. Le conflit était vraiment efficace. On allait vraiment dans quelque chose de sincère, de direct. Et c'était un conflit vraiment pertinent. Et en plus, moi, comme j'écris des chansons et que j'aime bien l'organique pour me nourrir, en arrivant en bas, j'ai pris un peu des notes et tout ça. J'ai dit waouh, c'était trop, trop bon. Vas-y, on remonte.
Merci beaucoup. On l'a refait. Deuxième prise. Merci beaucoup, Nathan, pour ce très beau témoignage qui illustre à merveille le thème de l'émission d'aujourd'hui. La beauté des engueulades. Très bonne journée à vous. Jean-Christophe Meurice, c'est une scène de théâtre qui vient de nous être racontée, là, non?
Ah oui, c'est comment bien s'engueuler, les différentes manières de s'engueuler, oui. Peut-être que plein de gens vont essayer de faire du vélo, enfin je sais pas. C'est bien, c'est d'être au bord du précipice, voilà. Quoi, c'est d'être efficace. Quoi.
Il a employé ce mot effectivement d'efficacité, c'est étonnant non, l'idée d'une dispute efficace, Jean-Christophe Meurice.
Alors pour un metteur en scène, non, parce qu'il y a toujours une notion d'efficacité quand on met en scène, peut-être dans la vie c'est très très bizarre de dire qu'on va s'engueuler de manière efficace, mais par contre pour deux acteurs qui doivent s'engueuler sur un plateau, trouver la à chaque fois refaire parce qu'on sait que le théâtre, c'est l'art de refaire. Mmh. Donc, il faut trouver des moyens pour se remettre dans l'état, trouver les mots justes, avoir cette connexion aussi avec le public, son partenaire, rentrer dans la mise en scène. Donc il faut une certaine efficacité.
Efficace au théâtre, efficace dans la vraie vie.
Ah bah, bien sûr. Et en fait, au cabinet, moi, pour le coup aussi, je cherche l'efficacité dans le sens où malheureusement, on perd énormément de temps à se faire des reproches qui sont vains, qu'on a déjà entendus, mais des millions de fois, et qui finalement ne font que blesser et éloigner les conjoints. Alors que en séance, on va essayer justement, et d'où le cadre qui est intéressant d'avoir une heure de séance, on peut pas dépasser. Même parfois, j'invite les conjoints à se cadrer eux-mêmes en disant, ce sera que le jeudi soir, vous avez 2 heures pour parler, et après on arrête, voilà, pour éviter aussi le 3 heures du matin, qui là n'est plus du tout efficace. Mais voilà, c'est justement travailler l'efficacité, c'est pouvoir se concentrer sur l'essentiel et arrêter l'autre quand là on rentre dans la blessure et donc qui peut dégénérer vers une dispute qu'on ne maîtrise plus. Donc l'efficacité invite à la maîtrise et donc à la bienveillance, comme vous disiez tout à l'heure, qui est un gros mot, mais un mot hyper important quand même.
Elisabeth est en couple depuis 23 ans, elle nous écrit parce qu'elle se dispute très très rarement avec son conjoint. Est-ce que ça veut dire que mes deux filles seront en colère dans leur vie d'adulte, demande-t-elle Camille Rochelle.
Non, alors en fait, il faut la colère née de l'injustice. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. On peut tout à fait avoir une liberté d'expression de nos émotions qui évite justement les traumas qui font que je me sens écoutée, mais sans forcément arriver à la dispute. Alors après, je ne sais pas ce que cette auditrice veut dire dans « on ne se dispute jamais ». Peut-être qu'elle arrive quand même à bien parler, que les choses se résolvent dans la communication, voilà, une bonne communication. Mais non, bien sûr, l'idée, c'est d'être dans l'écoute. Quand je fuis, quand je ne veux pas entendre, quand l'émotion est interdite à la maison, c'est là où ça peut générer de la colère parce que je sens que je peux pas être libre à la maison. Mais si ça passe par d'autres moyens, d'autres vecteurs, d'autres médiateurs, pour moi, c'est pas un problème.
Allez, on poursuit ces échanges dans un instant. L'art de bien s'engueuler. C'est l'été comme jamais.
C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte. Y'a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux. Aimons-nous maintenant, demain j'ai peur qu'on soit trop vieux. Les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête. Dedans je te guette, dehors tu m'arrêtes. Mes plus belles amourettes sont celles que je m'invente. Entrée VIP pour ma tête et si ça te tente, ouais. Faut pas croire ce qu'ils racontent. Ils ne me connaissent pas, gros virement sur mon compte. Non, ça leur plaît pas, mais cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire, de nous on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire, c'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire, de nous on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire, c'est tout. Je te quitte pour un seul mot. Je t'épouse pour un texto. Je pleure pour un ciel beau. Je tiens plus debout, mon salaud, en cavale dans Paris toute la noche. J'ai bu beaucoup trop de lit, je sais pas comment je vais rentrer. Mais si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, je te jure que c'est la dernière fois que je rentre aussi tard. C'est la terre des terres. Je l'ai promis à ma mère. Oh, c'est la terre des terres. Cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout.
C'était Emma Peters.
France Inter, l'été comme jamais.
L'art de bien s'engueuler. Voilà notre sujet jusqu'à 10h sur France Inter avec la psychologue Camille Rochet, avec Clara Georges, journaliste au Monde, qui pilote la rubrique « Comment je me suis disputée », des témoignages d'anonymes qui racontent une grande querelle d'amour ou d'amitié, un déchirement familial, une engueulade professionnelle qui a marqué leur vie, et avec Jean-Christophe Meurice, le fondateur et metteur en scène de la troupe de théâtre « Les chiens de Navarre ». Y a-t-il des lieux propices aux disputes, Camille Rochet ?
Alors, ça va dépendre de la capacité du couple à s'autogérer, parce que comme ça, moi, j'ai tendance souvent quand même à conseiller d'aller à l'extérieur de la maison. Déjà, quand il y a des enfants, parce que quand il y a des couples qui peuvent dégénérer vers de la violence, pour moi, ma première mission, c'est de protéger les enfants qui n'ont pas à vivre ça. L'extérieur permet aussi justement, tout à l'heure Jean-Christophe parlait du masque social, mais en fait c'est aussi une protection sociale, c'est-à-dire qu'on
c'est
est capable...
C'est le geste barrière de la colère.
Voilà, exactement, tout à fait, ben voilà, je n'aurais pas pu mieux dire. Donc je trouve qu'à l'extérieur et donc au restaurant, ça nous permet d'être cadré, ça nous permet de pouvoir dire les choses bien.
Il y a en du revanche, public au restaurant, ça voilà, c'est très gênant.
Mais c'est pour ça que ça va vraiment dépendre du couple, et c'est bien pour ça que l'avantage du restaurant, c'est que ça permet de ne pas dégénérer vers la dispute, mais d'être juste dans le conflit. Et c'est encore une fois, c'est comme l'histoire du vélo, quoi. Vraiment, de pouvoir être efficace, de se dire les choses bien, de ne pas hausser le ton. C'est en ça où je trouve que c'est bien. En revanche, je n'associerai pas tous les restaurants en couple pour se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui va me tomber ce soir dessus ?» Donc c'est très important de dire ça ce soir. C'est vraiment pour nous parler, on prend un temps pour tous les deux, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas posé. Et le restaurant Juste Plaisir, on ne parle que de projets sympas et de trucs qui n'ont rien à voir avec les conflits.
Le témoignage tout à l'heure de Nathan et cette magnifique dispute à vélo, ça montre aussi qu'il est parfois jubilatoire ou même amusant, allez, osons le mot, de s'engueuler.
Mais en fait, même au-delà d'être amusant, c'est vital pour le couple. Si le couple n'est pas capable de rentrer en conflit, il s'atrophie petit à petit et il rentre. En fait, il reste dans ses mauvaises habitudes et il ne permet pas d'évoluer, de mieux connaître l'autre. Donc c'est en ça où un couple qui se vante de ne jamais se disputer, on s'entend super bien, en fait... Ok, mais jusqu'à quand? Parce qu'au bout d'un moment, on s'éloigne sans s'en rendre compte.
Clara Georges, ces disputes racontées dans Le Monde, on le disait tout à l'heure, sont le résultat d'un appel à témoignages sur le site internet du journal. Ce sont donc des gens qui viennent à vous, qui se proposent de raconter une dispute. Est-ce qu'il faut parfois les protéger d'eux-mêmes? Parce que c'est une tribune exposée, c'est pas évident de se livrer aussi intimement.
Oui, et je pense que plus largement, c'est quelque chose que j'ai constaté dans beaucoup de domaines, dans des articles que j'ai eu à faire qui n'avaient rien à voir avec cette rubrique. Les gens se livrent. Ils se livrent dans une intimité qu'on n'imaginerait pas.
Et ça,
avec
c'est lié
une
à l'époque.
Grande facilité. Je pense, oui, je pense que vous le disiez tout à l'heure, il y a une espèce de d'engouement à parler de soi devant tout le monde et aussi à aller chercher un écho, à espérer se reconnaître à la lecture d'autres histoires que la nôtre, à espérer ne pas se reconnaître parfois. Et donc oui, il m'est arrivé à plusieurs reprises dans les propositions qu'on m'a faites de discuter avec les gens et puis de m'apercevoir que l'histoire était très très à vif ou bien qu'elle engageait vraiment plusieurs personnes avec parfois même des risques juridiques et donc de dire non,
on ne publie pas.
Non, on ne publie pas et voilà.
Est-ce que la personne qui vous contacte est toujours le gentil, entre guillemets, de l'histoire?
Ah non, pas du tout. Mais d'ailleurs, il n'y a jamais vraiment... De manière très claire, un gentil ou un méchant, une victime ou un bourreau, c'est toujours en fait le fruit. Bon, moi, c'est principalement des disputes familiales, ce qui constitue d'ailleurs une surprise pour moi. Je m'attendais à avoir beaucoup de disputes conjugales. Mais en fait, c'est souvent des disputes familiales qui sont le fruit d'années et d'années, parfois de dizaines d'années de silence.
Et de malentendus.
Et de malentendus, de rancœur et le surgissement de la
dispute. Et de manque de preuves d'amour aussi, c'est ce qui revient également beaucoup.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, en tout cas, c'est ce qui transparaît dans le discours. Après, il y a probablement d'autres choses derrière, mais dans le discours, souvent, je pense à cette femme qui espérait sans cesse avoir des marques d'affection de son père et qui ne les avait jamais, qui a fini par avoir une dispute retentissante avec lui alors qu'il était gravement malade, un soir de Noël, au milieu de la neige, enfin bref. et qui n'a pas obtenu, par le biais de cette dispute, de marque d'affection de son père. En revanche, elle a renoncé après à aller chercher.
Une histoire effectivement très forte. Dans un film, on n'y croirait pas, je me suis dit en lisant ça. De la dispute conjugale au cinéma, justement. Les films de divorce sont presque un genre cinématographique à part entière. Je pense à Scène de la vie conjugale, à Kramer contre Kramer, à La guerre des roses, Annie Hall, mais aussi Mariage Story de Noah Baumbach avec Scarlett Johansson et Adam Driver qu'on a vu monter hier les marches du Festival de Cannes. Écoutons un extrait de ce film.
Tu te comportes tellement comme ton père.
Ne me compare pas à mon père.
Je ne te compare pas à lui, j'ai dit que tu te comportais comme lui.
T'es exactement comme ta mère. Tout ce que tu critiques sur elle, tu le fais. T'es en train d'étouffer Henri.
Alors d'abord, j'adore ma mère, elle a été une mère merveilleuse.
Moi je répète que ce que tu m'as dit.
Et ensuite, tu oses comparer ma fibre maternelle à celle de ma mère? Je suis peut-être comme mon père, d'accord, mais je ne suis pas comme ma mère.
Erreur. Et en plus, tu es comme ton père. T'es aussi un peu comme ma mère d'ailleurs. Tout ce qu'il y a de mauvais chez tous ces gens-là. Mais t'es surtout comme ma mère. Quand on était allongés au lit tous les deux parfois, eh ben je te regardais et je la voyais et ça me dégoûtait.
Et moi je ressentais une répulsion quand tu me touchais.
T'es bordélique. C'est moi qui faisais les lits, c'est moi qui refermais les placards,
je ramassais tout derrière toi. De m'arracher la peau, si tu vois ce que je veux dire.
Mariage Story, en VF, oui, parce que c'est plus clair à la radio. Scarlett Johansson et Adam Driver sont exceptionnels. Et ce qui est très réussi, à mon avis, dans ce film, c'est qu'il est impossible de prendre parti en tant que spectateur. Chacun des deux personnages a ses lâchetés et ses raisons d'en vouloir à l'autre. Alors je m'adresse au metteur en scène, bien sûr, Jean-Christophe Meurice. À quoi cela tient-il qu'une engueulade fasse mouche dans un film ou sur une scène de théâtre?
Ah, ça c'est une bonne... C'est une bonne question. Sans doute, non, mais c'est en ce qui me concerne moi, c'est sans doute les mots qui vont être employés, l'exagération, le grossissement des idées. Je pense à cette dispute que vous avez diffusée tout à l'heure entre Alexandre Steiger et ses parents, Lorella Cravotta et Olivier Saladin. Là, c'était un conflit de génération, donc il foutait sur la tronche à tous les 68 arts, tout ce qui nous ont légué, tout ce qui ne font plus, toutes ces irresponsabilités. Donc le fait de grossir comme ça des vérités, c'est une question de texte quand même au théâtre souvent. Après, dans mon théâtre, il n'y a pas vraiment de personnages au sens psychologique, donc c'est des confrontations de figures comme ça. Donc on est plutôt sur l'argumentation et exagérer les arguments, ce qui fait que ça crée un effet, ça fait mouche. Voilà. Mais je sais pas pourquoi je pensais aussi en vous écoutant, parce que bon, c'est anecdotique, mais moi j'ai pu voir une fois un drôle de phénomène, parce que je sais, dans une pièce, deux acteurs se disputaient. Et ce qui crée, comment dire, quelque chose. Hein, et puis, ils ont continué à se disputer après, en sortant de scène. Et donc, mon regard n'était plus du tout le même, parce qu'il était amusé, parce que ça fonctionnait bien. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu, en sortant, ils continuaient à se disputer pour différentes choses, parce que quelquefois, les acteurs sont à vif, donc c'est quand même une arène, quoi. Donc, ouais. Ils sortent. Et donc, là, par contre, j'ai dû vraiment les calmer, et je suis passé de metteur en scène à une personne
médiateur
toute simple,
conjugal.
Quoi.
C'est le parallèle avec les fameuses scènes d'amour dont on se demande toujours si elles sont pas un peu pour de vrai. Ça marche aussi pour les scènes d'engueulade, finalement, Jean-Christophe Meurice.
Mais quelquefois, les acteurs sont tellement... ils sont à vif, quoi. Ils vont chercher des choses qui sont dans leur propre cuisine, quoi. Aussi, quoi. Même s'il y a une fiction, il y a une thématique. Et quelquefois, il faut mettre de l'eau, quoi.
Je me souviens d'un personnage de Jésus dans l'un de vos spectacles précédents, Les Armoires Normandes, qui disait qu'il y a plein de façons de sortir de scène. D'ailleurs, il proposait de toutes les faire. Bon, finalement, non. Hein. Plein de façons différentes de quitter la scène de théâtre. Est-ce qu'il y a tout autant de façons de sortir d'une dispute, notamment quand elle se passe sur scène?
Il y a, parce que c'est souvent de la musicalité, hein, on va dire de la musicalité un peu organique. Souvent, après la guerre, l'accalmie. Et c'est quelque chose qu'on... Et c'est comme Beethoven. Vous voyez, c'est musical dans le sens... Après, l'oreille, après avoir eu les oreilles chauffées, est prêt à recevoir une accalmie, à entendre des choses plus douces, plus tendres. Donc, c'est pas un système, mais... mais c'est oui, il y a quelque chose d'organique, c'est quelque chose de facile après. On peut raconter énormément de choses après une scène de guerre et de dispute. Et souvent, c'est là qu'on en profite pour raconter les choses qu'on souhaite raconter à travers la pièce.
Et on passe à nouveau de la scène de théâtre à la vraie vie avec le témoignage d'Aurore qui a appelé le Standard de France Inter. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, c'est une histoire estivale, je crois, une histoire de camping.
Oui, c'est ça. En fait, je parlais à la standardiste d'une engueulade qu'on avait eue avec mon mari à l'arrivée d'un long voyage pour partir en vacances en Corse. On avait eu une route pluvieuse, c'était la nuit, il faisait froid. Et puis en arrivant au camping, il fallait monter la tente. Et moi, j'étais épuisée, fatiguée, énervée. Et mon mari, lui, était toujours de super humeur. Il était content d'être arrivé en vacances. Et au bout d'un moment, je lui ai crié dessus en lui disant « Mais tu m'énerves avec ta bonne humeur. Je ne supporte pas que tu sois de bonne humeur alors qu'il pleut, il fait froid. Il faut qu'on monte la tente, il est 3 heures du mat. » Et il me regarde et il me dit « Mais écoute, tout va bien, c'est les vacances. Pas de violence, c'est les vacances. » Et ça m'a fait rire. Et voilà, mais c'est un souvenir d'engueulade qu'on a gardé. Voilà, depuis ce moment-là.
C'est votre slogan désormais. Pas de violence,
pas
c'est
de violence, les vacances. Et je crois qu'on se ressort chaque année, exactement. Et voilà, c'était très très drôle au final. Voilà.
Merci beaucoup Aurore pour cette très belle intervention. Camille Rochet, vous vous en servirez dans votre cabinet.
Voilà, je conseillerai maintenant à mes patients.
C'est les vacances. Je me demandais, parce que voilà, ces histoires d'engueulades nous font sourire, nous émeuvent. Quelle réaction dans le journal Le Monde, quelle réaction de lecteur, on sait que ça suscite beaucoup de commentaires, notamment sur le site internet, hein, le moindre article du Monde. Quelles sont les réactions des lecteurs et des lectrices aux disputes parfois dantesques que vous racontez ?
Alors, les réactions, nous, elles nous parviennent principalement par le biais des commentaires. Effectivement, en général, les gens prennent parti. Ce qui est
bon, étonnant.
C'est ce qu'ils font sur à peu près tous les articles publiés sur tous les sujets. Mais c'est vrai que là, en général, je pense en particulier à une dispute conjugale. J'en ai publié assez peu, enfin une. Bon, alors clairement, c'était effectivement très subjectif. C'était un jeune homme qui racontait une espèce de dispute sans fin, sans cesse réitérée avec sa compagne, qui était d'une assez grande violence verbale, qui revenait vers lui, qui l'attaquait, ça a duré des années, jusqu'à ce qu'il finisse par se séparer d'elle. Et là, les commentaires sur le site étaient un peu de l'ordre du « bravo, tu t'es libéré de son emprise psychologique », voilà. Mais il y a eu aussi, de manière assez surprenante, au tout début, une dispute professionnelle. Un homme qui racontait une dispute qu'il avait eue dans sa jeunesse avec son patron, qui lui avait permis de s'affranchir un peu.
Parce qu'il demandait une augmentation et voilà, qu'on ne lui a pas accordée.
Il demandait une augmentation, c'était un électromécanicien qui demandait une petite somme, quoi, une rallonge, et il a claqué la porte. Et là, les commentaires étaient assez incroyables. Je sais pas exactement ce que ça traduit. Tout le monde disait c'est formidable, bravo Jean-Marc, c'est extraordinaire d'avoir réussi à prendre votre liberté de la sorte. Donc voilà.
Finalement, ça pose la même question que nos réactions à nous quand on entend les témoignages d'auditeurs et auditrices. Qu'est-ce qu'on cherche dans les disputes des autres, Camille Rochet?
Je trouve déjà d'une part que, moi je le vois dans mes livres où je donne beaucoup d'exemples, les personnes aiment beaucoup pouvoir s'identifier. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui viennent dans mon cabinet après.
Ça nous rassure peut-être que les autres s'engueulent
aussi. Exactement, et se dire j'ai l'impression que vous me connaissez, vous avez écrit mon histoire alors que je ne le connaissais pas. Donc je pense qu'il y a une identification qui rassure. Maintenant, je voulais juste rebondir sur ce que disait Clara tout à l'heure. Il faut ne pas oublier aussi que c'est pas forcément la personne qui est dans le silence, qui parle pas, qui a l'impression de subir tout le temps la violence, qui n'est pas moins violente pour autant. On a l'impression que la violence vient que d'éclats, de paroles très dures, mais il y en a qui sont très violents dans l'ignorance, dans le silence, dans la non-réactivité, dans la non-prise en main, et qui ont une violence qui est tue, mais qui en fait n'est pas moins violente et qui peut générer chez l'autre de la violence. Et c'est en ça où on va travailler tout schéma, et c'est pour ça qu'on ne peut... C'est très compliqué de dire d'emblée qui est bourreau-victime, parce que honnêtement, très souvent, c'est un schéma qui dysfonctionne, qui fait que tous les deux, on se met dans cet état-là. Mais quand ça tend à se répéter dans le couple, c'est qu'on est, ou dans une autre situation, c'est que justement, il y a un schéma répétitif à désamorcer.
C'est un disque rayé, finalement.
Exactement,
l'engueulade.
Tout à fait. Et on est tous les deux co-responsables, en fait, vraiment.
Thank you.
Évidemment, battez-vous sur France Inter. On termine cette émission, comme chaque matin, avec une question rituelle. Il n'y a que les imbéciles à qui ça n'arrive pas, paraît-il. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. Camille Rocher.
Ah, alors eh ben, ça tombe très bien parce que cette semaine, moi, mes enfants étaient en vacances un peu plus tôt, et je me suis dit que je m'énervais trop parce que c'était compliqué de se retrouver
de tout
tous
gérer.
Ensemble, comme un autre confinement finalement. Et j'ai décidé que j'allais rire de leurs idées un peu farfelues parfois qui pouvaient m'énerver. En fait, je me suis dit là, je vais en rire pour prendre du recul et ensuite j'interviendrai. Mais donc, ça m'arrive parfois de prendre une petite photo, avec le feu de sur le mur, avec le chocolat partout dans la
Quelle
cuisine.
Quelle sérénité, bravo.
Et ben voilà, donc ça a été ma décision pour ces vacances d'été.
Rire des bêtises plutôt que de les engueuler. Très bonne idée. Jean-Christophe Meurice, sur quoi avez-vous changé d'avis?
Moi, c'était une forme de pari ou d'expérience scientifique. Je devais, dans une cage de 20 mètres carrés, me battre à main nue contre un grizzly. Et j'ai changé d'avis. Je ne l'ai pas fait.
Peut-être vous avez bien fait. Clara Georges, même question. Sur quoi avez-vous changé d'avis?
Récemment, peut-être sur la recette de la tarte aux pommes.
Ah, ouais. Le sujet. Et donc?
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai longtemps pensé qu'on ne devait pas mettre de purée de pommes
en dessous
des pommes. Et au final, je me dis que peut-être j'avais
si.
Un sec.
Je suis toujours impressionnée par l'amplitude des réponses à cette question. Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin. Le dernier spectacle des Chiens de Navarre est en tournée un peu partout en France. Chaloux en Champagne, Annecy, Marne-la-Vallée, Rennes. Vous reprendrez bientôt un autre spectacle, Jean-Christophe Meurice, jusque dans vos bras. Toutes les infos à la page de L'été comme jamais sur le site de France Inter. Comment je me suis disputée, c'est-à-dire une fois par mois dans le journal Le Monde. Et vous pouvez raconter votre histoire d'ailleurs en écrivant au journal. À quelle adresse, Clara Georges?
À l'adresse mail dispute au singulier @lemonde.fr.
Voilà. Et l'amour commence après 3 ans. Réinventer votre couple pour une vie à deux épanouie et durable de Camille Rocher chez Inter Éditions. Là aussi, les infos sur notre site. Merci beaucoup à tous les trois.
Une émission sans
assiette qui vole. Bonne journée à vous. Juste après le journal, ce sera Charles Pépin sous le soleil de Platon. Bonjour Charles.
Bonjour.
Quel programme aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je reçois Olivia Ruiz pour parler de l'exil. Et demain, Arthur H pour parler de poésie. Et vendredi, le philosophe Fabrice Midal pour essayer d'apprendre un peu à résister aux injonctions trop tyranniques.
De la philo entre 10h et 11h, c'est tout l'été sur Inter.